la marche par la foi, la marche dans la justice, la marche selon la volonté de Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, on avait aussi mentionné quelques marches, quelques-unes des marches avec Dieu, notamment la marche par l'Esprit, la marche dans la sagesse, et ce mardi, c'était la marche, vous devez vous souvenir, hein. Vous ne vous souvenez pas, vous ne vous rappelez pas, c'était la marche dans l'unité, avec deux versets référence auxquels que nous avions lu, Philippiens chapitre 3 verset 16, au point où nous sommes arrivés, écrit Paul, marchons ensemble. Marchons d'un même pas. Et puis, on avait aussi fait référence à Jean, chapitre 17, et cette prière que Jésus adresse au Père, qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et on avait rappelé, c'est juste un petit rappel comme ça, que si l'unité est déjà effective aux yeux de Dieu, pour Dieu, notre unité, elle est réelle devant Dieu, il y a plusieurs images qui sont utilisées comme un seul corps, un seul édifice spirituel, une seule maison, un seul pain, etc. Eh bien, cette unité, nous sommes appelés à la vivre et à la pratiquer dans nos relations mutuelles, dans nos relations communautaires et avec les autres chrétiens, les chrétiens avec d'autres chrétiens. Marcher dans l'unité et les alliés de l'unité, on s'en souvient, c'était quoi ? C'était se supporter mutuellement, faire preuve de support mutuel, c'était avoir un esprit de douceur, un esprit de patience, un esprit d'humilité, un esprit de pardon et aussi faire preuve de charité. Faire preuve d'amour. Et c'est sur cette dernière vertu spirituelle que j'aimerais attirer notre attention ce matin. La marche du chrétien dans l'amour. La marche dans l'amour. Et nous allons lire un verset dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Versets 1 et 2, ça va s'afficher derrière. Voilà. Et marchez dans la charité, ou bien dans l'amour, marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Marcher dans l'amour. Alors, en premier lieu, la marche dans l'amour implique notre amour envers Dieu. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que marcher dans l'amour pour Dieu ? Qu'implique notre marche avec Dieu, finalement ? Lui dire, lui affirmer, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as sauvé. La louange est importante, c'est vrai, pour proclamer notre amour et notre reconnaissance envers Dieu, c'est important de lui dire. Mais c'est davantage encore. Jésus dit que aimer Dieu, c'est aussi obéir à ses commandements. Si je respecte les instructions que Dieu me donne à travers sa parole écrite, eh bien, c'est la preuve que j'aime Dieu. C'est Jésus qui dit ça, d'ailleurs, hein, dans 2 Jean, au chapitre 1er, verset 6. Il dit ceci, « Et l'amour consiste à marcher dans ses commandements. » Et puis, c'est pas Jésus qui dit ça, c'est Jean qui dit ça. Donc, mais Jésus lui-même dit ça aussi dans Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, on connaît ce verset. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quand on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. Donc, la manifestation de notre amour pour Dieu, c'est de lui dire ouvertement notre amour pour lui, verbalement, à travers la louange, mais plus encore, c'est de respecter, d'obéir à ses commandements. Celui qui, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, notre obéissance est une preuve de notre amour pour lui. Alors, si je vais, par exemple, si je vais sur la place de la Digue, ben oui, vous la connaissez bien, la place de la Digue. Hein, vous n'y allez pas souvent, j'espère. Mais si je vais sur la, plaque de, sur la place de la Digue et que je marche en titubant avec une bouteille à la main, je suis loin de montrer, de prouver mon amour pour Dieu. Si j'invective un conducteur limaçon qui est devant moi, ça m'arrive. Hein. Pourtant, je ne demande pas par là mon amour pour Dieu. Si je mens à mon prochain, je ne demande pas mon amour pour Dieu. Si je déteste un frère ou une sœur, je ne demande pas non plus mon amour pour Dieu. Et pourtant, ça arrive. Malheureusement, à notre honte. Et c'est très grave. C'est très grave. Et d'ailleurs, c'est Jean qui écrit ceci. Si quelqu'un, on connaît aussi ce verset, bien évidemment, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce témoignage que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Les deux commandements sont consécutifs et ils sont liés. Tu aimeras ton prochain, dit Jésus. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les deux sont intimement liés. Taire une blessure ou étouffer un conflit qui n'est pas réglé, solutionné, génère de la haine et de l'amertume dans le cœur. La loi du Christ, la loi de l'Esprit, est plus exigeante encore que la loi de Moïse. Sous l'Ancienne Alliance, comme nous le savons, la loi du talion était d'application. Il y a plusieurs références qui la mentionnent, notamment Exode au chapitre 21, verset 23. On ne va pas le lire. Hein, et on connaît bien sa formulation « œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure », la loi du talion. Autrement dit, ben, si tu me crèves un œil, ben, je vais te crever ton œil. Si tu me casses une dent, je vais te casser une dent. Si tu me fais une griffe sur la voiture, là, ben, je ferai aussi la même chose sur la tienne. La loi du talion. Donc, il s'agit d'infliger au coupable un mal de même nature et de même gravité que le mal causé à la victime. Et j'ai parfois l'impression qu'on se considère encore comme étant sous la loi du talion. Parfois, on entend des propos. Celui-là ne paie rien pour attendre. Je l'attends au tournant. Il va me le payer cher. Et pourtant, c'est fini. On n'est plus sous la loi du talion. Et comme nous le disions il y a un instant, la nouvelle alliance place la barre plus haut encore. En Matthieu, chapitre 5, versets 43 et 44, Jésus dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Plus de talions chez Jésus. Terminé. Lui qui, nous dit 1 Pierre au chapitre 2, verset 3, Lui qui injuriait ne rendait pas d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Étienne a cette même attitude en acte 6. Et Paul nous encourage dans l'Épître aux Romains au chapitre 12, verset 20, dans le même sens, lorsqu'il dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Il va être confus. Mais sa conscience peut aussi être interpellée à salut. » Imaginons un petit peu que nous allions ici à côté pour lui offrir une boîte de praline. C'est Rose qui s'en chargerait. Elle dit, on sait bien que vous ne nous aimez pas, que vous ne nous appréciez pas, que vous ne nous supportez pas, que vous nous avez cherché beaucoup de problèmes, mais on a envie de vous faire plaisir. Voilà, voici une boîte de praline pour vous. Peut-être qu'elle va te revenir à la tête, quoique je ne sais pas s'il oserait avec toi. Hein. Mais peut-être que non. Et peut-être qu'il va être interpellé, peut-être qu'il va réfléchir. Aimer ses ennemis. L'apôtre poursuit encore dans ce sens lorsqu'il écrit aux Corinthiens, on ne va pas lire, faire la lecture, 1 Corinthiens 4, 12 et 13, et dans son exhortation aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 15. Et Pierre, l'apôtre que nous avons déjà cité, abonde encore dans ce sens, également dans ce sens, en 1 Pierre au chapitre 3, verset 9, il est écrit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, le talion, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. » Il y a donc ici, semble-t-il, une bénédiction qui est accordée à celui qui aime ses ennemis. Alors, humainement parlant, c'est impossible. Il est naturellement impossible de ressentir de l'amour ou de manifester de l'amour envers quelqu'un qui nous veut du mal ou qui nous fait du mal. Moi, j'ai d'énormes difficultés avec ça. Je suppose que vous aussi. C'est impossible. Difficile. Pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est que nous puissions aimer jusqu'à notre ennemi. Aimer jusqu'à notre ennemi. Alors, une considération peut nous aider dans cette démarche. C'est le fait de dissocier, finalement, l'individu, la personne, de son comportement, de son attitude. Je peux haïr, et franchement haïr, une attitude méprisable, négative, méchante, sans pour autant haïr la personne en elle-même. Il y a une marge entre le fait de dire « je te hais » et de dire « je hais ce que tu fais, je hais ce que tu dis ». Évidemment, c'est une réflexion qui est valable sur le terrain humain, uniquement. Naturel. Et seule l'action puissante et surnaturelle du Saint-Esprit peut nous aider réellement à aimer notre ennemi. Sinon, quant à nous, on en est incapable. C'est impossible. Mais l'Esprit de Dieu peut nous aider, produire en nous de l'amour envers les personnes qui ne nous aiment pas et qui nous font du mal. Et finalement, n'est-ce pas là l'attitude de Dieu à notre égard, hein ? Il hait le péché, mais il aime le pécheur. Sans quoi il n'aurait pas donné Jésus pour qu'il soit puni à notre place et pour que nous soyons bénéfices du pardon. 1 Jean 4, verset 10, Romains 5, verset 8. Une petite illustration. Comme ça, ça va vous réveiller un petit peu. Tu le vois, là. On voit qu'il y a une heure en moins. Hein. Dans son livre Un jour à la fois, William MacDonald raconte cet épisode dont il fut témoin. Un Indien, écrit-il, conduisait son éléphant le long de la rue en lui piquant sans cesse, en le piquant sans cesse pour le faire avancer plus vite. Soudain, l'aiguillon d'acier tomba avec fracas sur le pavé, sur le sol, sur le tarmac. L'éléphant se retourna, ramassa l'aiguillon à l'aide de sa trompe pour le rendre à son maître. Et MacDonald de conclure son témoignage en ces termes, en disant ceci, c'est cela l'amour. C'est cela l'amour. Cet éléphant aurait pu envoyer à 10 mètres de lui son maître par un simple coup de trompe. Mais il ne l'a pas fait. C'est tellement difficile pour moi de ne pas réagir devant quelqu'un qui me veut ou qui me fait du mal. Seulement, c'est ce que Dieu veut. Et ça n'est réalisable, possible, que par l'action miraculeuse et surnaturelle du Saint-Esprit dans ma vie. Sinon, c'est une chose impossible. Ceci dit, après l'amour envers les ennemis, l'amour pour envers Dieu, l'amour envers les ennemis, la Bible nous encourage à de très nombreuses reprises à établir, à construire des relations avec les autres, avec notre prochain, avec nos prochains en général, sur l'amour. Bâtir nos relations sur l'amour, l'amour pour le prochain. Gonsha Bacha Bajashui. Vous connaissez cette dame-là? C'est Mère Teresa. Vous connaissez mieux Mère Teresa. C'était une femme de Dieu qui a exercé un ministère en Inde. D'origine albanaise, elle a été prix Nobel de la paix en 1979. Et dans son livre « Tu m'apportes l'amour », elle écrit ceci. Nous ne serons pas jugés sur le poids, sur la somme, pardon. Nous ne serons pas jugés sur la somme de travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous aurons mis. Nous ne serons pas jugés sur la somme de travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous y aurons mis, que nous aurons mis. Et je crois qu'elle a raison si on se base sur 1 Corinthiens chapitre 13. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme une timbale retentissante, une cloche qui fait du bruit. L'amour envisagé ici, eh bien, ce n'est pas un amour sentimental, ce n'est pas un amour émotionnel. L'amour envisagé ici, ce n'est pas un amour familial, ni un amour amical, ni un amour sensuel, ce n'est pas un amour physique. Pour définir l'amour selon Dieu, eh bien le Saint-Esprit a choisi un mot qui était peu utilisé dans la Grèce antique et qui signifiait déjà quelque chose de très beau. Il signifiait avoir de l'estime ou avoir de la considération pour quelqu'un. Avoir de l'estime ou avoir de la considération pour quelqu'un. Mais le Saint-Esprit a élevé davantage ce mot en lui apportant une valeur supérieure encore, en le sanctifiant en quelque sorte. Il lui a donné une valeur spirituelle et surnaturelle. Il faut le dire. Et c'est comme nous le savons certainement, c'est le mot agapé qui vient, c'est un substantif qui vient du verbe agapao, qui veut dire aimer, l'amour, aimer. Et agapao, dans le Nouveau Testament, il paraît qu'il revient 139 fois. Le mot amour revient, sous sa forme la plus noble, revient 139 fois dans le Nouveau Testament. Et le verbe agapao, donc c'est le terme agapé qui revient 139 fois, le verbe agapao revient 115 fois. C'est dire combien l'amour est important pour Dieu. L'amour est ô combien important aux yeux de Dieu. Alors cet amour, eh bien, c'est un amour qui est démonstratif. C'est un amour qui est dynamique. C'est un amour actif. 1 Jean chapitre 3, verset 18 l'exprime clairement lorsqu'il dit « N'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » N'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action. L'amour tel que Dieu l'envisage, l'agapé tel qu'il nous est dépeint dans le Nouveau Testament, est un amour démonstratif, un amour qui se démontre. La marche dans l'amour est donc une démonstration. La marche dans l'amour est une consécration envers Dieu et envers le prochain ensuite. Marcher dans l'amour, c'est considérer l'autre comme Jésus le considère. Ça, c'est marcher dans l'amour. Dans sa parenthèse entre les dons spirituels, l'apôtre Paul développe ou rappelle un cantique, c'est un magnifique hymne sur l'amour qui était probablement chanté dans les églises naissantes. On le connaît, hein. Et donc, dans cet hymne, dans ce chapitre 13, il définit l'amour comme suit. Celui qui marche dans l'amour est patient. On veut tout de suite aujourd'hui. On ne sait plus attendre aux caisses, aux guichets, au volant de sa voiture. On ne parvient plus à attendre. On manque de patience avec nos enfants et même parfois avec nos frères et sœurs. Celui-là, il ne changera jamais. Vous avez déjà entendu ? Celui-là, il ne changera jamais. On manque de patience. J'avais un professeur qui expliquait que lors d'une conférence, il y avait un chrétien qui avait un panonceau accroché autour de son cou, sur lequel il était écrit « Soyez patient avec moi. Soyez patient avec moi. Soyez patient avec moi parce que Dieu n'a pas encore fini son travail en moi. Dieu n'a pas encore terminé de me façonner. L'amour, la marche dans l'amour est une marche dans la patience. L'amour est patient. » Et puis, autre définition que 1 Corinthiens définit dans son chapitre 13, celui qui marche dans l'amour est quelqu'un de serviable. C'est quelqu'un qui est plein de bonté, qui est bienveillant, qui est attentionné. Hein, je vois que tu as difficile parce que tu as mal au bras, mais je vais t'aider à enfiler ta veste. Je vois que tu as les mains chargées, je vais t'ouvrir la porte. Je vois que ma sœur, Rose, elle est fatiguée de venir les mercredis pour balayer. Là. Mais je vais, c'est pas moi qui vais venir, mais nécessairement. Hein. Mais je vais venir quand même balayer la salle. Je vais venir balayer ou aspirer la salle ici. L'amour est serviable. Un amour démonstratif, un amour pratique. L'amour est patient, l'amour est serviable. Et puis, celui qui marche dans l'amour n'est pas non plus quelqu'un qui est envieux. Il n'est pas animé d'un esprit de compétition, de concurrence, de rivalité. Il n'y a pas de jalousie dans le cœur de celui qui aime. Il n'est pas jaloux de ce que l'autre possède. Au contraire, il se réjouit de ce qu'il a, des dons qu'il possède, des aptitudes qu'il a. L'amour n'est pas envieux. Celui qui marche dans l'amour n'est pas envieux. Celui qui marche dans l'amour, il n'est pas vantard non plus. Et il n'est pas orgueilleux. Celui qui marche dans l'amour n'est ni vantard, ni orgueilleux. Orgueilleux, pardon. Je sais, tu ne m'apprends rien. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai ceci, j'ai cela, moi je. On pourrait traduire aussi, paraît-il, le fait de l'amour n'est pas vantard ni orgueilleux par n'est pas gonflé de vent, comme la grenouille dans la fable qui se gonflait pour paraître plus gros. Et parfois, on a tendance à se gonfler comme ça, à faire preuve d'orgueil. L'amour n'est pas orgueilleux, l'amour n'est pas vantard. Celui qui marche dans l'amour ne fait rien de malhonnête. Et là aussi, on pourrait traduire par « l'amour ne manque jamais de courtoisie ». L'amour prend des égards, il évite de blesser, il évite de scandaliser, il n'est pas dédaigneux. L'amour n'est pas dédaigneux. Celui qui marche dans l'amour pense aux autres. Il ne pense pas uniquement à lui-même, il pense aux autres. Il aime passer du temps avec les autres. Il est à l'écoute de l'autre, de ses soucis, de ses problèmes, de ses difficultés. Il prie avec l'autre. L'amour pense aux autres. Celui qui marche dans l'amour pense aux autres. Celui qui marche dans l'amour ne s'irrite pas. Il ne s'aigrit pas. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, eh bien, on évite de se mordre le nez ou de se crêper le chignon, bien que maintenant, il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont des chignons. Il n'y a plus personne. C'est une expression qui dit on évite de se quereller. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne s'irrite pas. Et puis, celui qui marche dans l'amour ne soupçonne pas le mal chez l'autre. Il ne fait pas preuve de suspicion arbitraire ou subjective. Ça, c'est ce qui caractérise également celui qui marche dans l'amour, d'après 1 Corinthiens chapitre 13. Celui qui marche dans l'amour, il pardonne tout. Il pardonne tout et il pardonne jusqu'à 77 fois cette fois. C'est énorme, hein, par jour. Ça fait 539 fois. Celui qui aime, celui qui marche dans l'amour, il pardonne à l'infini. Enfin, l'amour croit tout, l'amour espère tout, et enfin, l'amour supporte tout. Le fameux programme. Vous connaissez beaucoup de personnes qui marchent dans un tel amour ? Vous connaissez quelqu'un qui est capable de marcher parfaitement dans l'amour tel qu'il nous est décrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 13. En fait, je ne vois qu'une personne. Et d'ailleurs, le chapitre 13 d'1 Corinthiens dresse le portrait de cette personne. Seul, en effet, Jésus a été capable de marcher parfaitement ainsi dans l'amour. Alors, est-ce que c'est une raison pour dire « Ouais, mais je ne suis pas Jésus, moi. Je ne suis pas Jésus. Je ne saurais jamais marcher comme ça. Je ne saurais jamais y arriver. » Et c'est vrai. On ne parviendra peut-être pas à marcher parfaitement dans l'amour tant qu'on sera sur cette terre. Et pourtant, l'apôtre Paul termine donc sa réflexion sur l'amour au chapitre 14 d'1 Corinthiens, au verset 1er, juste avant de poursuivre son développement sur les dons, en disant « Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. » On n'y arrivera peut-être pas parfaitement, mais nous sommes appelés à tendre vers cet idéal-là. Recherchez l'amour. L'ADN du Christ, c'est l'amour. L'ADN du chrétien, ça devrait aussi être l'amour. Il y a tant d'appels à l'amour dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres Jean 13, verset 34, « Aimez-vous ardemment les uns les autres. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 22, pour ne citer qu'eux. Il y a tant d'autres versets. Et si l'accent est mis tant de fois sur l'appel à la pratique de l'amour, ce n'est pas pour faire joli. Ce n'est pas seulement pour faire joli. Le christianisme, ce n'est pas uniquement un ensemble de doctrines. Le christianisme, c'est aussi un mode de vie basé sur l'amour. Alors, la clé pour marcher dans cet amour, eh bien, elle se trouve dans la relation, dans la communion avec celui qui est la source même de l'amour. Dieu est amour. Peut-être que vous connaissez Ralph Challis. Il a écrit ceci dans son livre « Explosion de vie ». C'est dans la mesure où un homme est intimement en rapport avec son Créateur que le vrai amour naît et se développe en lui et autour de lui. C'est dans la mesure où un homme est intimement en rapport avec son Créateur que le vrai amour naît et se développe en lui et autour de lui. Le secret de la marche dans l'amour, c'est de se trouver, de se tenir tout près de la source de l'amour. Et plus nous nous tiendrons à proximité de la source de l'amour, plus nous reflèterons, plus nous réfléchirons l'amour de Dieu. Ou plus exactement, plus le Saint-Esprit produira à travers nous cet amour surnaturel de Dieu. Romains 5, verset 5 dit, et ça confirme ce que nous venons de rappeler, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous l'amour de Dieu, un amour surnaturel, un amour que l'être humain est incapable de manifester. Malheureusement, plus on s'éloigne de la source, moins l'eau est pure. C'est bien connu, hein, ça. Plus on s'éloigne de la source, moins l'eau est pure. Et le diable connaît l'impact, la puissance et le témoignage de l'amour divin. C'est pourquoi il va tout mettre en œuvre pour nous détourner, pour nous séparer de la source de l'amour. C'est vrai, hein, on est si prompt à juger, on est si prompt à condamner les gens, à mépriser les gens, à médire. Nous sommes si prompts à critiquer et même à haïr. Nous avons besoin de nous trouver, de nous tenir tout près de la source de l'amour. Nous avons besoin de demeurer auprès de la source de l'amour. Alors, on termine par cette réflexion-là. Hein. Si les chrétiens ne marchent pas dans l'amour, si nous ne marchons pas dans l'amour, mais qu'est-ce qui va nous différencier des gens du monde, des gens qui vivent autour de nous? L'amour de Dieu que nous devrions manifester est également une source de témoignage pour les gens du dehors. Ah oui, ben, Jésus l'a dit aussi. Hein. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres.